RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les vacances bel en bras, elles sont pour vous grâce au GG, grâce aux grandes gueules. Tous les jours de la semaine, on vous les a offerts. Ces vacances, on continue aujourd'hui. Il suffit d'envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Vous serez dans un séjour de 2000 euros dans les clubs et hôtels. C'est du premium tout compris. Ne vous gênez pas. Voilà, tout à l'heure, le gagnant sera avec nous à 11h15. Les grandes gueules qui accueilleront à 11h les créateurs du canon français. Ils sont très critiqués aujourd'hui pour faire, paraît-il, des banquets patriotes, nationalistes, où on entend des propos racistes, où il y a des saluts nazis. On leur a demandé de venir s'expliquer dans les GG. Géraud de la Tour et Pierre-Alexandre Mortemar de Boisse seront les invités des GG, les invités des Grandes Gueules, tout à l'heure à 11h. Là, maintenant, on lance la deuxième heure des Grandes Gueules avec Fatima Hidbounoua, la prof de français, avec l'éducateur Abel Bouilly, avec le consultant juridique Antoine Diers, et on va s'intéresser à une génération qui ne veut plus sortir de chez elle.
Commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans.
C'est que je me souviens très bien de Tino Rossi qui chantait « La vie commence à 60 ans ». J'étais mouflé et maintenant j'ai passé ces putains de 60 ans. Mais c'est vrai que t'as une autre partie de ta vie qui commence et qui peut être plutôt sympa quand on a la chance d'être dans un métier qu'on aime et d'être en bonne santé. Voilà, c'était mon petit moment personnel pour évacuer ces 60 ans. Alors là, le problème, c'est que ceux qui ne sortent pas de chez eux, ils n'ont pas 60 ans. Ils sont tout jeunes.
Oui, c'est un article du Parisien aujourd'hui en France qui nous a interpellés ce matin. La génération Z est une génération de papy et mamie. Elle le revendique. Oui, effectivement, le samedi soir, on n'a pas envie d'aller dans un bar, dans une boîte de nuit. On veut rester à la maison, faire des soirées plaies, de Pearls, Rami, comme si ces jeunes de 18 à 25 ans avaient plus de 70 ans. C'est la génération casanière qui le revendique, même sur Instagram. Il y a même des jeunes qui avec des vidéos qui cumulent des milliers de vues pour dire voilà comment on vit une vie cosy, une petite vie cosy. Est-ce que vous le comprenez ça? Ou est-ce que vous dites c'est pas possible? Parce que quand moi je me souviens que j'avais 20 ans, je pensais qu'une chose c'était de sortir, d'être dehors et de faire la fête.
Antoine, est-ce que tu es dans cette génération?
Eh bien... je sors beaucoup, malgré voilà, je suis trentenaire, je sors beaucoup et souvent, et en même temps je comprends les deux mondes, c'est-à-dire que aujourd'hui sortir c'est devenu cher. Honnêtement, je pense que à votre génération, vous alliez en boîte, c'était raisonnable de se payer des coups, c'était
non. Ah, bon, moi je payais jamais en boîte, c'était hors de prix les consommations.
Non, mais d'accord, mais même sortir boîte. Au bar ou tu vois,
c'est pour ça qu'on est au bar.
Aujourd'hui, avant. les moindres soirées sont vite très chères. Donc les jeunes, ils en ont un peu marre.
C'est ça l'explication.
Alors, je pense que c'est une explication. Ensuite, je pense que c'est aussi devenu normal de pouvoir dire à 20-30 ans, je suis très bien chez moi, Netflix tranquille, alors qu'avant jamais tu l'aurais assumé. Et aujourd'hui, probablement après le Covid, où on a renoué un peu avec son chez-soi, le droit à être au calme, etc.
T'as parlé de Netflix. Est-ce que tout ça ne pousse pas à rester chez soi, le numérique, le portable? Finalement, tu peux avoir des interactions de chez toi, t'as pas besoin de sortir.
C'est vrai que maintenant tu peux voir le monde depuis chez toi.
Tu peux te faire livrer ton repas, Deliveroo, Uber Eats, voilà.
Avec Amazon Netflix. Uber Eats, t'as plus besoin de sortir.
Voilà.
Et le télétravail.
Ouais. Et le télétravail voulu par Monsieur Lecornu, on est bien.
Et ton application Tinder où tu t'appelles Antoine Love, vrai, bébé joli aussi.
T'as 5 applications aujourd'hui, t'as plus besoin de sortir de chez toi.
Voilà.
Plus du tout. Tinder et ça pour les relations amoureuses. Bah, Tinder, Amazon pour faire livrer tout ce que tu veux.
Chez lui, hein. Instagram pour rester en contact avec tes copains, tes copines qui t'envoient des vidéos.
5 applications, t'as plus besoin de sortir
des messages.
Mais alors, la meilleure application, c'est quand même le bistrot, là, tu vois, tu rencontres du monde, c'est sympa.
Mais il y a de moins en moins.
Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la côtoies, cette génération, de temps en temps ou pas?
Non, moi je côtoie plutôt une génération qui aime traîner dehors, même s'il y en a qui aiment être cosy, mais je te rejoins sur les effets du Covid que l'on minore, où on a été confiné, et je pense que ça a aussi un rapport avec la santé mentale.
Certains jeunes sont restés confinés, en fait.
Ouais, il y a la question de la santé mentale, il y a la question du rapport au travail qui se décline dans les autres domaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler pour vivre, mais travailler pour vivre plutôt, excusez-moi. Je pense que ça aussi, ça joue. Et le numérique qui est en train de nous isoler, en réalité. On peut le voir comme un progrès. Moi, personnellement, je préfère le monde sans Internet. Parce que ce qui est censé être un réseau social qui est censé nous rapprocher, nous éloigne en réalité. Et on ne sait plus passer du temps de qualité ensemble. Il n'y a qu'à voir. On ne sait plus apprécier un silence dans une discussion. Souvent, tu te retrouves avec des jeunes. Il suffit qu'il y ait 3 minutes de silence. Tout le monde fait semblant de sortir son téléphone comme si recevait un SMS, alors que pas du tout.
Il n'y a plus de conversation, on a moins de mots de vocabulaire, oui. Donc on converse moins comme avant.
Passer du temps de qualité ensemble, je pense que ça c'est en train de se perdre, donc on préfère tout recevoir à la maison, et même quand on parle des relations intimes, les relations platoniques numériques aussi se développent. T'as beaucoup de personnes qui préfèrent avoir entre guillemets des relations sexuelles à distance aussi, alors là, via les réseaux sociaux.
Parce que tu as en plus les algorithmes qui t'installent dans un certain confort. Où tu n'es pas dérangé, tu n'es pas.
Mais peut-être aussi qu'il y a une responsabilité
perturbée
de la façon dont on décrit le monde. On a l'impression qu'à l'extérieur, il y a que du danger, que de l'insécurité, que les jeunes filles vont se faire violer, que les garçons vont tomber dans des guet-apens. Il y a aussi donc finalement le seul endroit où tu es en sécurité, c'est chez toi, sous ta couette. Il y a peut-être aussi une façon dont nous on raconte le monde. Et j'implique les médias, etc. Parce qu'effectivement, moi, je suis une génération où on était toujours dehors, même gamin. C'est-à-dire que ta mère te disait va jouer dehors avec tes copains, tu me fatigues, reste pas dans mes pattes, c'est va jouer dehors. L'inverse, aujourd'hui c'est l'inverse, c'est-à-dire que les parents vont dire non, reste là, surtout rentre vite et reste dans ta chambre.
On voulait aller découvrir le monde, mais maintenant on veut que le monde vienne chez nous sans que l'on ait à bouger.
Fatima.
Enfin, je suis à la mode, puisque moi, quand j'étais jeune, j'étais casanière.
Miss Blaine 98.
C'est son compte Tinder aussi, voilà.
Les rencontres à distance, moi, je trouve vivement que ça soit ringard et vivement que les gens se rencontrent en vrai. Et je pense que ça va être vite ringardisé à cause des faux. Tu sais, maintenant, avec l'IA, il y aura tellement de faux profils où t'as l'impression de parler à une femme et derrière, c'est un homme de 90 ans qui a créé le truc.
Donc, tu invites gens et qui te demandent de l'argent.
Vivement que ça soit ringard. Mais pour revenir sur le côté casanier, dans les causes, effectivement, il y a l'argent, t'en as parlé rapidement, mais ça coûte très cher de sortir, de prendre un verre et tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui se replient, c'est pas par choix, mais parce que le portefeuille ne suit pas. La santé mentale, c'est important aussi. J'ai beaucoup d'élèves. Maintenant, mais pas les miens, pas les collégiens, mais quand je leur parle, qui sont devenus étudiants, par exemple, qui me parlent de l'énergie de leur batterie sociale. Ça veut dire ils sont épuisés d'avoir des interactions sociales et des fois, ils développent même une forme de phobie sociale où ça leur prend une énergie folle parce qu'effectivement, les codes du net sont pas les mêmes codes que de reparler à quelqu'un. Et ça leur prend beaucoup d'énergie, donc ils préfèrent et se replier chez eux, et puis d'avoir leurs amis, les vrais amis avec qui on peut être soi-même et tout ça. Après, je me réjouis pour le tricot, par exemple. Moi, je trouve ça très bien que ça revienne à la mode. Pourquoi ? Parce que j'ai le souvenir, et c'est des infirmières qui m'avaient montré ça, quand j'avais repris mes études de psy, elles proposaient de faire du tricot à certains patients. Et le fait d'être concentré, d'être vraiment sur l'instant présent et d'être sur du manuel... Il y a beaucoup de patients qui étaient angoissés, par exemple, et qui allaient mieux. Donc, en vrai, tout est lié.
Les jeunes vont beaucoup mieux, là. Ils s'imaginent le soir avec tricot.
Il y a l'angoisse. Il y a quelque chose aussi qui dit l'angoisse de cette génération-là. On a une génération qui peut être aussi angoissée. Il y en a qui ont choisi, qui sont très bien, parce que moi aussi, j'aime être chez moi, donc il n'y a pas de problème sur ça. Mais il ne faut pas négliger l'aspect santé mentale. Donc, à surveiller, à regarder tranquillement. Est-ce qu'il y a des gens, j'aimerais bien savoir, on a des gens qui témoignent sur leurs enfants, j'aimerais bien voir.
Il y a un auditeur qui arrive, moi je pense que c'est surtout aujourd'hui le problème du confort de l'algorithme, c'est-à-dire que quand tu sors et que tu rejoins des gens, tu sais pas sur qui tu tombes. Tandis qu'aujourd'hui, finalement, les algorithmes de tes réseaux sociaux te confortent. T'es toujours avec des gens qui pensent la même chose que toi. Avec des hommes, des femmes ou des filles, des garçons qui sont exactement comme toi. Donc, ça t'installe, tu vois, dans une espèce de coton, de quiétude mentale où t'as plus envie de prendre de risques.
Exactement.
Parce que, souviens-toi, on est souvent les uns les autres à notre époque. Tu sors, tu vas dans une soirée. Tu dis, putain, qui c'est ce con? Pourquoi je suis avec lui? Et tu peux t'emmerder en soirée. Et tu dis, bon, ben, je pars, je sors. Ah, finalement, c'était une soirée ratée. Ça nous est tous arrivé. Et tu ne veux même plus prendre ce risque, finalement, aujourd'hui. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à ça, ben, t'es tranquille, t'es dans ton univers, t'es dans ton environnement, et t'es pas perturbé, quoi.
Parce qu'on cherche de moins en moins la communication. Ce qu'on cherche, c'est la communion. C'est-à-dire que même quand quand t'es dans ton groupe et que t'envoies une vidéo qui t'a fait rire, tu lui envoies pour faire, haha, c'est trop drôle, et on rit ensemble d'un truc. On n'est pas en train de confronter des avis. Et donc, il y a de plus en plus de gens, mais même les adultes, hein, c'est pas que les jeunes, qui ont du mal à respecter l'autre quand il n'est pas du même avis. Ça veut dire que, et c'est ce que j'apprécie nous dans nos auditeurs, moi il y a des auditeurs qui sont pas du tout d'accord avec moi, mais ils sont polis, ils arrivent à être dans l'interaction, on communique, on n'est pas d'accord mais on communique, ça c'est génial. Mais on a de moins en moins ça, les gens, si t'es pas du même accord avis que moi,
t'es contre moi
parce qu'on veut la communion.
Pardon, dans le Parisien aujourd'hui en France, il cite une jeune fille qui dit qu'elle préfère passer des soirées plaides, lecture, décorer ses albums photos. Ce qui ne veut pas dire, dit-elle, que je ne sors pas, mais plutôt une fois tous les 3 mois.
Oui,
seulement. L'évolution de son mode de vie rejoint d'ailleurs une tendance plus large, parce que, par exemple, chez les jeunes, on consomme moins d'alcool, moins de cigarettes. Ça a été prouvé par factuellement qu'il y a effectivement une baisse de la consommation et de l'alcool et des cigarettes.
C'est une génération.
Il y a aussi moins de sexe.
Il s'envoie moins en
Donc
merde.
On est en train d'avoir une nouvelle génération qui vivra différemment effectivement des générations précédentes. Alors vous parlez tout de suite de santé mentale. Vous savez, je trouve que vous avez un regard un peu péjoratif sur ça.
Ça fait partie des causes.
Comme si les santé mentale. Non. Mais quand on dit santé mentale, on a l'impression qu'on est face à une génération de psychopathes.
Sur le moins sexe.
Non, mais je veux dire, c'est comme ça. Je pense que ces gens-là sont heureux. C'est-à-dire, ils seraient malheureux. Ils seraient malheureux à rester chez eux. J'ai l'impression que Evanel, qui citait dans le Parisien aujourd'hui en France, elle n'est pas malheureuse.
Aussi, quand vous dites moins de sexe, on dirait que c'est moins. Mais par exemple, il y a des jeunes gens là qui ont vu la génération d'avant se perdre dans les applis, dans la surconsommation de l'autre, où c'était une forme de rapport au sexe frénétique même, et qui se sont dit non mais attends, ils sont abîmés, ils sont seuls, ils sont malheureux, j'ai pas envie de ça. Et donc, par exemple, un truc qui était ringard avant et qui est devenu super à la mode, c'est le couple même, le couple qui dure, c'est-à-dire être en couple depuis longtemps. Avant, quand tu voyais des gens qui étaient c'est à la mode, dans le sens où les jeunes, quand ils voient des couples qui sont ensemble depuis 5 ans, ils disent waouh, c'est quoi votre secret? Oh, c'est trop beau. Ils admirent ça.
Oui, parce qu'il y a une génération qui a eu des parents divorcés aussi.
C'est ça. Et c'est la durée, le fait de faire durer les choses. Donc, moi,
j'ai un espoir pour tous les conservateurs comme moi, le retour aux vraies valeurs. C'est ça qui en
Je sais pas si c'est les vraies valeurs.
Mais
en tout cas, une interrogation sur ce qui s'est passé avant.
Mais par exemple, il y a aussi une autre qui est citée dans le Parisien qui dit, elle fait du coloriage, de la peinture, de la pâtisserie chez elle.
On sent quand tu lis.
Non, ton mot coloriage.
Non, je ne juge pas, au contraire. Et on dit justement, c'est une réponse à la surstimulation constante de nos vies. Parce qu'on nous envoie 50 notations sur le téléphone par jour. Bah, peut-être que par réaction, on a besoin de trucs calmes.
Un havre de paix.
Ouais. C'est pour ça que je vous parle de batterie sociale. Et ils sont plus à l'écoute aussi d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'avant, par exemple, quelqu'un qui ne buvait pas allait peut-être se forcer et faire semblant pour être dans le groupe. Bah, là, il y a des jeunes qui vont assumer, qui vont dire moi, je fais attention à ma santé. Et ils vont oser être des individus. En fait, la société individualiste, c'est aussi celle qui va moins être dans le code.
Le crochet,
moi, ça, j'aime bien.
Le crochet est une activité à la mode.
On a Marie qui nous appelle du Nord. Marie, bonjour.
Anti-angoisse. Oui, bonjour.
Bienvenue, Marie. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération, alors? Dites-moi.
Je suis une mamie. Comme je disais au standard, en fait, la nouvelle génération assume plus. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a 20 ans, j'étais casanière.
C'est ça.
Je ne le disais pas forcément.
C'était mal vu.
Ben, c'est ça, on essayait
de... C'est notre moment, Marie.
C'est-à-dire, c'était quoi être casanière à votre époque, alors?
On restait à regarder la télé, ou on écoutait la radio, ou on lisait des livres, mais on ne le disait pas forcément. Mm-hmm.
Donc, et aujourd'hui, vous pouvez l'assumer.
C'est ça.
Et vous êtes toujours casanière à 40 ans?
Oui. J'aime bien chez moi.
Et ouais, c'est même, il y a des choses qui sont devenues un peu sexy, qui redeviennent sexy, comme lire, par exemple. Avant, lire, il y avait le côté de l'intello, tout seul, qui lit, à mon grand désespoir. Mais maintenant, sur TikTok, il y a des mouvements sur BookTok, où on parle des livres qu'on a lus. Il y a les clubs de lecture qui reviennent à la mode. Moi, franchement, je me réjouis de ça.
Et puis après, un lire, petit bridge, et ça
mais
va être
Marie,
un bon week-end.
Sur vos étagères, vous avez des collections de canards, des collections de boules avec la neige, c'est ça?
J'ai vraiment une collection de boules à neige.
Ah bah voilà,
Marie,
moi je dis alors. Vous avez raison.
Mais en fait, je disais aussi par rapport à au succès de Netflix. Aujourd'hui, justement, le fondateur de Netflix ou Facebook étaient des anciens casaniers.
Mais et exactement.
En fait, ils ont justement développé ce que eux avaient besoin. Et finalement, ça fonctionne. Et aujourd'hui, eux sont millionnaires.
Et Marie Zuckerberg, quand vous regardez sa vie,
je sens une pointe de regret chez vous, Marie.
Il restait chez lui.
Parce qu'il y a des problèmes avec les filles aussi.
Allez, vous aviez une idée pour, et voilà, vous auriez dû la développer. Oui.
Tout à fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut l'assumer. C'est ce que vous dites.
Tout à fait.
Alors qu'il y a 20 ans,
Marie,
on en avait
du coup, parce que vous dites, vous étiez casanière, ça ne vous a pas empêché, j'imagine, de faire votre vie, quand même, de toutes les manières.
Non, mais j'ai un masque un peu plus où je dois être un peu dans l'acting. Montrer en fait que je suis un peu plus sociable, alors que en fait je suis une timide maladive, et c'est compliqué de justement
je vois. En fait, il y a votre timidité qui fait que ça vous
timide, un peu agoraphobe et tout ça, quoi. En fait, c'est ça.
Mais aujourd'hui, justement, avec tout ce qu'on a développé, on le vit beaucoup mieux qu'auparavant.
Oui, vous faites quoi dans la vie?
Je suis fonctionnaire.
Ah ben là, c'est bien, vous pouvez télétravailler en ce moment. C'est ce que l'État veut pour que.
Mais justement, c'est ça qui est compliqué en fait. Après, je suis casanière, je suis timide. Oui. Mais c'est vrai que dans la fonction publique, le télétravail a permis à certaines personnes qui ont des difficultés sociales ou en équipe de pouvoir continuer à travailler. Mais... Le télétravail, moi, je me dis, c'est pas que je suis en train de regarder la télé. Je fais mon boulot, je me concentre.
Oui, bien sûr.
Je fais beaucoup plus que quand je suis avec mes collègues. M'invite à boire un café.
Bah pour les neurones.
Contact social.
Mais du coup, vous sortez dans la semaine, vous arrivez à sortir une ou deux fois par semaine ou...
Tu t'inquiètes,
bah, je fais des
diagnostic.
Vous faites des after work avec les collègues, ouais, quand même. C'est vous sortez, vous amusez, vous faites des week-ends quand même.
Elle a pas envie,
c'est ça.
Enfin.
Oui, c'est
si,
ça.
Je bois des spritz avec les collègues en terrasse.
Marie, vous êtes heureuse, vous allez bien?
Oui, c'est ça.
Mais oui, mais voilà.
Oui, parce que. Oui, parce que c'est ça, c'est présenté toujours comme étant c'est une tare, comme quelque chose de.
Mais parce que les gens,
c'est un problème mental.
Marie, je vous remercie d'avoir fait d'avoir témoigné comme ça en toute franchise. Merci.
Merci Marie.
Merci de suivre les GG, les grands.
Juste, le témoignage de Marie, il peut aussi parler non, c'est pas seulement aux timides, elle s'est présentée comme timide, maladive, mais toutes les personnes qui sont un peu neuro-atypiques, comme ça je vois là.
Neuro-atypique.
Bah, il va y avoir plusieurs formules.
À part Antoine Diers, il y a
on va mettre, c'est un mot valise pour mettre dedans tout, on va avoir les HPI et les personnes à haut potentiel, il y a plusieurs choses.
HPI maintenant. Oui, on est tous neuro-atypiques.
En tout cas, toutes les personnes qui vont avoir ce type de difficultés là, là où on se rend pas compte, c'est que ce qui est une souffrance pour une personne, ça va être au contraire d'être avec des gens, parce que ça te prend une énergie folle et tu dois t'en remettre.
T'as envie d'être en représentation.
Moi,
en fait,
par exemple, si 3 heures d'émission avec vous, je finis juste après 3 heures d'émission avec vous, j'ai besoin d'être seule un moment.
Ah pareil, oui.
Nous aussi.
Et les auditeurs aussi.
Merci à Marie qu'on embrasse. 10h20. Suite des GG dans un instant.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Dans les GG aujourd'hui, Antoine Diers, consultant juridique, Abel Boyi, l'éducateur, Fatima Hidbounois, la prof de français. On va rouvrir un dossier, celui des animateurs du périscolaire. Je dis, on rouvre un dossier. Il y a un dossier qui est en cours d'instruction à propos de ces animateurs du périscolaire, ceux qui sont soupçonnés de violences sexuelles et de pédophilie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la mairie de Paris veut réagir. Et là, aujourd'hui, elle veut suspendre automatiquement les animateurs du périscolaire en cas de
suspicion, et ça ne plaît pas aux syndicats.
Oui, c'est une décision d'Emmanuel Grégoire, le nouveau maire socialiste, qui a fait du périscolaire parisien l'une de ses priorités. Il a donc décidé de suspendre automatiquement les agents du périscolaire dès le moindre signalement de comportement problématique avec des enfants. On avait reproché beaucoup de laxisme à les mairies de Paris, et donc là, on prend une direction inverse. Au contraire, on veut être intraitable, principe de précaution, tolérance zéro, et ce qui fait que dans la capitale, 78 agents ont déjà été suspendus depuis le début de l'année 2026, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles dans les écoles. Et là, ça provoque l'indignation de l'intersyndicale qui appelle à faire grève entre les lundi 11 et vendredi 22 mai, parce qu'ils estiment que par ce genre de comportement, on a l'impression que c'est une chasse aux sorcières qui se met en place sans discernement. Les écoles craquent, dit l'intersyndicale.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Antoine ?
Je suis fasciné parce que tout le monde dit il faut réagir. Oui. On peut pas laisser ça. C'est logique d'avoir ce que j'appellerais des mesures conservatoires. Bien sûr qu'il peut y avoir des erreurs, mais de sortir quelqu'un sur lequel il y a un doute, c'est légitime. Et non, il y a toujours des imbéciles de syndicalistes pour dire ah ben non, c'est discriminant, c'est vexatoire, chasse aux sorcières. Mais enfin, pardon, on parle d'enfants. Au moindre doute, c'est normal de sortir la personne sans qu'on l'ait jugée coupable. C'est une mesure conservatoire.
Mais est-ce qu'on passe pas d'un excès à un autre ?
Non, mais c'est pas un excès. Tu as quelqu'un qui est au contact d'enfants. On entend quelque chose. Ça me paraît normal de dire tout de suite, pardon monsieur, aujourd'hui, vous n'allez pas travailler, vous êtes temporairement le temps de l'enquête. C'est absolument normal. Et ceux qui pensent le contraire sont très bizarres.
D'autant plus que pendant des années, on a minoré la voix de l'enfant. Donc je suis désolé, moi je pose la question, qu'y a-t-il de pire qu'un enfant violé ? Rien. Désolé pour le côté cru de cette question. Donc Emmanuel Grégoire aussi, c'est son obligation de faire ça. Moi j'ai toujours dit, ce mec, il a été laxiste parce que lui-même, il a révélé être une ancienne victime de pédocriminalité dans le périscolaire. Donc cette mesure, je l'appuie. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un enfumage. Parce que aussi certains syndicats ont dit avoir la preuve que soi-disant la mairie de Paris voulait gonfler les chiffres. Moi, j'attends que ces preuves soient mises sur la place publique. Mais en attendant,
gonfler les chiffres du nombre de
exactement de suspensions pour dire que l'on agit. Ils disent qu'ils ont des preuves, qu'ils mettent les preuves sur la place publique.
Il faut pas écarter l'hypothèse un peu cynique qu'il faut montrer tout d'un coup qu'on intervient et donc il y a des gens qui vont se retrouver suspendus alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose, mais parce qu'il faut faire du chiffre.
Il y a une manifestation qui est prévue. Hein.
Oui,
mais une manifestation.
Tu sais, il y a eu un premier mouvement social mi-avril aussi, donc voilà. Quand il y a un mouvement qui se veut être entre guillemets révolutionnaire, il y a toujours de la casse à côté. Mais je suis désolé, je répète, il n'y a rien de pire qu'un enfant violé, qu'un enfant violenté.
J'essaie d'imaginer
donc,
le slogan.
Il faut y aller.
Mmh. Ouais, mais je suis pas. Ouais, mais attention, parce que d'être accusé d'avoir abusé d'un enfant, c'est quand même terrible. Donc il faut pas non plus se tromper.
C'est une mesure conservatoire, comme a dit Antoine.
Souviens-toi d'Outreau quand même. Il faut faire attention aussi.
Pas juger. Oui, voilà. De bien comprendre que c'est une mesure conservatoire.
Mais quand t'es suspendu, forcément pour les parents, t'es déjà coupable.
Oui, mais là t'es suspendu sur la base de quoi ? Peut-être du témoignage d'un enfant.
Oui, mais l'enfant, tu sais très bien que le témoignage d'enfant c'est fragile. Il faut faire attention.
Va dire ça à tous les parents qui découvrent chaque jour que leur enfant.
Oui, mais c'est ça la question.
Non, mais bien entendu.
Je vais te rappeler aussi Outreau, le témoignage des.
D'accord.
On a détruit aussi des vies parce qu'on a cru des enfants qui, pour X raisons, avaient menti. Je dis pas que les enfants mentent, bien entendu. Moi-même, je suis père et j'ai des enfants qui sont encore dans le périscolaire. Donc, je suis un des premiers concernés par ça. Mais je me dis attention parce qu'il faut pas non plus. Je me mets à la place aussi des agents qui sont suspendus, qui se sentent innocents, qui se disent innocents. C'est vrai que c'est terrible parce qu'une fois que t'es suspendu, c'est comme si t'étais déclaré coupable. Tu sais très bien dans la société actuelle.
Je suis d'accord.
Mais comme les gens qui sont mis en examen, ils sont dans l'état d'esprit des gens déjà coupables.
Ouais, mais faut prendre le risque.
Fatima et Benoît.
Moi, ce que je crains un peu, c'est comme là il y a la lumière médiatique sur eux et comme on les a accusés de laxisme, ils vont passer du laxisme à une mise en scène factice d'action pour gonfler les chiffres, pour montrer, pour dire regardez, on agit. Et donc le côté vite fait mal fait où ils ne règlent rien. et il rajoute un autre problème au problème. Donc c'est ma seule crainte. Moi, ce que j'ai envie, j'ai dit, il faut être impitoyable, et je suis vraiment, il faut être impitoyable, et je considère qu'on a été laxiste, et je considère qu'à partir du moment où il y a un témoignage d'enfant, c'est insupportable pour un parent de se dire, attends, il y avait des suspicions, on l'a laissé en contact avec les
donc
enfants,
okay,
c'est insupportable. Donc je suis d'accord sur ça.
Sur l'application de cette mesure.
Voilà, sur l'application de la mesure, il faut bien être d'accord sur ce qu'on appelle suspicion. Voilà.
Parce que si les consignes, c'est il faut des chiffres. Hein. Vite, vite, voilà. Il faut pouvoir communiquer aux journalistes qu'on a suspendu puis, un nombre de personnes.
Et en plus, ils voudront faire des chiffres. C'est comme dans l'éducation nationale quand ils font des fausses choses là. Par exemple, pour l'orthographe,
où ils vont dire vite fait, qu'est-ce que vous
proposez à l'opinion publique. Maintenant, ça y est, on est impitoyable sur l'orthographe. Et pareil, vite fait, mal fait.
D'accord, mais qu'est-ce que tu proposes d'autre du coup?
Non, moi je suis pour ça. Ah mais je dis, il faut que ça soit fait. Il ne faut pas que ça soit une parole de communication. Il faut qu'on soit très d'accord sur ce qu'on appelle suspicion.
C'est fou à quel point la parole du politique est discréditée. C'est-à-dire quand ils font rien, on leur reproche. Quand ils font quelque chose, on dit, ils le feront pour la communication.
Alors, moi,
Timan n'est pas naïf,
c'est ça. Je te rassure tout de suite, ça s'appelle pas de la méfiance. Ça s'appelle juste de l'expérience. Ouais. C'est comme quand on se méfie pour la santé. Moi, depuis le sang contaminé, depuis le Mediator, je ne suis plus la naïve que j'étais.
Je vais te reprendre un autre exemple. Regarde, il y a eu l'affaire Cahuzac. On s'est aperçu qu'on avait donc un ministre du budget qui avait
un compte en Suisse.
Et qui, dans les yeux, expliquait qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Et depuis, c'est ridicule. On est parti sur une transparence absolue. Donc, on va à tout prix savoir si le sous-ministre des armées a une Fiat Panda ou une Peugeot 5008. Si jamais il a deux livrets, on se dit, oh là, il est riche. Ben voilà.
C'est toujours
le problème par rapport à un vrai problème. C'est par rapport à un vrai problème, on en fait toujours trop ensuite.
Alors, non, mais qu'il y ait une surréaction, c'est une chose. En revanche, la grève, c'est une chose. En revanche, de dire aujourd'hui, oui, il faut pas de suspension systématique.
Mais c'est ce que tu peux donner aussi.
Tu alimentes la suspicion du réseau pédophile en disant, une corporation qui se protège. Ouais. Ils ne veulent pas que dès qu'il y a un enfant qui parle, il y ait une suspension parce que comme ça, ils peuvent continuer d'abuser. Ils peuvent continuer.
Je ne les connais pas, mais j'en sais rien. C'est comme pour une bombe.
Je ne sais pas qui sont les personnalités qui sont dedans. J'en sais strictement rien. C'était bien des jeunes sous tout rapport qu'on nous présentait comme étant dans le périscolaire.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est quand on parle de pédocriminalité, c'est un peu comme quand on a un sac piégé dans un wagon. Des fois, on dit, attention, il y a un sac, il est peut-être piégé, on vide tout et finalement, il n'y avait rien. Mais si on l'avait pas fait et que ça avait explosé, il y aurait eu des dégâts. C'est un peu la même chose. Ah oui. Ça veut dire que là, s'il y a un enfant qui a témoigné, qui dit à sa mère le soir, un tel m'a touché, bien entendu, pour moi, on le met à distance pour éclairer. Mais c'est pour ça que je dis, mais moi, j'attends de voir que ce n'est pas un peu du folklore médiatique.
Jérôme qui va intervenir dans notre discussion. Jérôme, bonjour. Jérôme du Morbihan. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il faut suspendre automatiquement ou pas? Dites-moi.
Je trouve que c'est super compliqué parce qu'en fait, faire le ménage, au contraire, moi j'ai des petits enfants qui ont 4 ou 6 ans qui vont à la crèche, donc ils fréquentent des animateurs et je comprends. Moi je suis un peu terrorisé quand je vois ce qui se passe à Paris. Où ça me paraît.
Pas seulement à Paris,
À Paris ou ailleurs, pardon. Parce que là on parle du plan scolaire à Paris. Mais moi où ça me fait peur, c'est toujours pareil, c'est que quand on va mettre quelqu'un de côté parce qu'on a des suspicions. Mais imaginons que le pauvre garçon, il est, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'a rien fait. Moi, je me mets à sa place où sa vie est dévastée au niveau perso, quand vous êtes accusé de pédophilie, avant de s'en remettre.
Il est mort.
Voilà, dans sa vie privée,
Oui, mais l'argument se retourne.
Moi, je suis pas d'accord.
Si c'est avéré
vous.
Et qu'on le laisse en place.
On peut pas sacrifier des gens en disant c'est le principal, c'est d'écarter les pédophiles. Quand t'es suspendu, tu sais très bien que la pédophilie, la pédocriminalité, c'est devenu le crime absolu maintenant dans notre société. Et donc, tu sais très bien que le type. Et tant mieux. Et que le type qu'on soupçonne d'avoir eu des gestes sur un enfant, il est mort. Les parents seront dit, maintenant quand même c'est bizarre, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu sais très bien comment c'est.
Olivier,
allez-y Jérôme.
Même, je veux dire, bon après il a été accusé, il est innocenté. Imaginez sur son CV, le gars il est à Paris, il va se dire, bon allez, je vais ailleurs. bon, le prochain, il est animateur de métier. Qu'est-ce qu'il va faire? La prochaine chose qu'il va faire, il va aller chercher un autre métier. Le recruteur va regarder, il lui dit, mais comment ça se fait? Vous avez un trou de 2 ans. Bah oui, j'ai été accusé de pédophilie à tort. Il sera jamais pris, même si il vient avec son jugement qui lui dit vous êtes hors de cause, vous avez jamais rien fait. Il aura toujours il aura toujours ça sur sa tête toute sa vie, pour garçon.
Pardon, mais si c'est bien fait, excusez-moi, si c'est bien fait par les RH de la ville de Paris, il est où Étienne? Étienne, il est pas là pour quelques jours. Il peut être en congé, il peut être machin, le temps de l'enquête.
On n'explique pas pourquoi il est suspendu.
Non, on n'explique pas. Mais non.
Imaginez, vous avez deux.
Allez-y, Jérôme.
Je me permets. Vous avez deux enfants, je ne sais pas qui est parent ou pas parent, mais vous avez besoin de faire garder vos enfants, excusez-moi. Vous rencontrez quelqu'un en face de vous qui vous dit, voilà, j'ai été animateur en périscolaire, j'ai été suspendu pendant 2 ans parce qu'on m'a
suspendu une suspicion
de pédophilie. Enfin, pendant qu'il a été suspendu ou qui a été on l'a accusé de ça.
Donc l'enquête aille vite.
Même s'il vient avec son jugement en disant vous êtes innocent, est-ce que vous lui laisseriez vos enfants pendant
non,
que
mais non. Voilà. Mais non, principe de précaution, dire voilà, je prends pas de risque.
Mais Jérôme, voilà, Jérôme, quand vous dites que la vie de la personne est foutue, pardon, le nombre d'animateurs dont il a été avéré qu'il y a eu des faits pédocriminels qui ont été exfiltrés, qui se sont retrouvés ailleurs, dans d'autres structures et qui continuent. Moi, il y a même des cas que je traite où les gens continuent de travailler auprès des enfants au désarroi des parents. Eh ben non, ils continuent à faire leur plus belle vie.
Bien sûr, mais là, n'empêche pas l'autre.
Blacklistés.
Mais oui, mais c'est pas parce que on a été vraiment un fautif en la matière à Paris, où on a laissé effectivement les animateurs, on savait qu'il y avait un problème et on les a mutés, etc., qu'aujourd'hui il faut pas tomber dans l'excès inverse, et uniquement parce que Emmanuel Grégoire, il fait de la politique, il sait très bien qu'il est très attendu là-dessus, c'est pour ça qu'il en fait des tonnes.
Jérôme,
non, mais il faut que ça soit efficace, voilà.
Oui, mais ça c'est clair. Les fautifs, faut les punir, mais moi, il y a pas, enfin, je déteste pas plus quelqu'un qui peut faire du mal à des enfants. Ouais. Mais après, il faut faire attention à ce qu'on fait aussi, parce que quand on parle de ça, quand on parle de toutes les personnes qui ont été accusées de viol, donc on en a parlé pendant des semaines et des semaines, ils ont été accusés, mais le jour où ils sont innocentés, on n'en parle plus, quoi.
Ça, donc c'est vrai aussi.
La personne, elle va traîner ça toute sa vie en se disant, il y a plein de gens, moi, que j'ai déjà oubliés, qui ont été accusés de viol ou d'autres choses, de choses immondes, qui ont été innocentés ou il n'y a pas eu de suite, et au final, on reste sur cette idée-là. Que et puis une fois que le truc est lancé,
c'est la machine infernale, en fait. Jérôme, je vous remercie d'avoir été dans les grandes gueules. Jérôme, merci d'avoir été avec nous. On a posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre cette suspension automatique dès qu'il y a un cas de suspicion? Vous dites oui par précaution à plus de 84%. Allez, suite des GG dans un instant.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Suite des GG dans un instant. D'ailleurs, je vais vous donner le programme des grandes gueules là jusqu'à midi. On va parler du gouvernement qui veut mettre les fonctionnaires en télétravail. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, ce qu'on dit du côté de Bercy et du gouvernement, il faut privilégier le télétravail. Ça permettra de faire des économies de carburant. Donc, vous venez réagir avec nous au 32-16. Ensuite, on aura les petits camarades du Canon Français avec nous. Canon Français, c'est cette organisation de banquets qui date de 2021. Ça a été créé par deux amis, Giraud de la Tour et Pierre-Alexandre Mortemart de Boisse. En fait, ils organisent des banquets géants à travers toute la France. Ils peuvent réunir jusqu'à 4000, 5000 personnes. Il s'agit de se retrouver autour de la chanson française, autour de la bonne chère. Alors, il paraît qu'on y a vu des saluts nazis. Il paraît qu'on y a entendu des propos racistes, vidéos à l'appui. Ils sont pointés du doigt, ils sont accusés, à tort ou à raison. Ils viendront se défendre dans les GG, dans les grandes gueules. Donc, si vous voulez réagir avec les grandes gueules, vous avez le 32-16 à votre disposition. Et si vous avez raté l'émission, vous avez les podcasts. Et les podcasts, c'est sur l'appli RMC. Et vous retrouvez toute l'émission des GG. Et en plus, tous les petits à côté que l'on peut se dire pendant la pub. Et ça, ce sont les anecdotes racontables, bien sûr.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 11h moins le quart. Vous discutez avec les GG, avec les grandes gueules, avec Abel Boyi, l'éducateur, avec Antoine Dierce, voilà, consultant juridique, et Fatima Idbounois, la professeure de français. Le gouvernement veut mettre les fonctionnaires en télétravail. En fait, il veut leur permettre d'économiser de l'essence. Comme ça, ça coûte rien au pouvoir public. Et c'est vous qui faites. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? 32-16. Donc c'est un appel aux fonctionnaires à limiter les déplacements, à privilégier le télétravail de manière à ainsi économiser le carburant.
Oui, tu sais que quand on traverse des moments difficiles, on a toujours besoin du bon conseil de l'État. Donc quand il fait froid, eh bien l'État nous dit mettez un pull
pour pas trop chauffer.
Quand il fait trop chaud, l'État nous dit n'oubliez pas buvez de l'eau. Quand il y a une grève des transports, l'État nous dit prenez un vélo. Et là, comme le carburant ça coûte cher, l'État dit à ses employés, donc les fonctionnaires, restez à la maison. Donc il y a même une circulaire qui a été signée par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Monsieur David Amiel, qui exhorte les ministres à étudier des possibilités d'augmentation individualisée du recours au télétravail. Voilà ce que dit la circulaire. Autrement dit, les agents de l'État sont invités à rester chez eux pour effectuer le moins possible le trajet domicile-travail. Donc c'est 3 jours maximum par semaine pour un agent à temps plein. Là, c'est la fonction publique d'État. Donc, quand tu regardes de près, il y a à peu près 2,5 millions de fonctionnaires dans la fonction publique d'État. Ensuite, il y a l'hôpital et la territoriale. Bon, le problème, tu peux pas. Les policiers, ils peuvent pas télétravailler. C'est compliqué. Ouais. Les profs, ça va être difficile. Hein, tu vas nous le dire, Fatima.
Ah, ça serait calme. Bon, c'est chez moi.
Donc, on se dit qui va vraiment télétravailler. Alors, peut-être les gens des impôts, ça pourrait nous arranger. Qui pourrait. Voilà. Est-ce que vraiment ce genre de conseil est utile et est-ce que ça règle le problème de cette crise des carburants?
Alors, Fatima.
Écoutez, alors, ce qui est curieux dans la présentation, c'est qu'on a l'impression qu'ils nous le disent parce qu'ils doivent nous convaincre. Moi, autour de moi, j'ai que des personnes qui aimeraient et à qui on a refusé.
Ah oui.
La plupart du temps. Parce que très souvent, le patron va avoir peur. Bah, vous savez que si t'es chez toi, tu travailles moins bien. Alors que pour moi, oui, si t'es chez... ce qui compte, c'est que le travail soit fait et soit bien fait, que tu sois chez toi en chaussettes ou tailleur dans le bureau. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, je comprends pas vraiment à qui s'adresse cette annonce. Si c'est à eux-mêmes pour eux-mêmes. Faciliter quand les gens demandent pourquoi pas, mais ils peuvent se parler entre eux-mêmes.
C'est une consigne que le gouvernement donne aux chefs.
Oui, c'est, voilà, pour oui, leur dire, voilà, peut-être aux chefs pour faciliter, mais c'est plutôt
ça. Accorder le télétravail.
Mais les Français, la plupart, il y a plein de Français qui demandent et on leur dit non parce qu'il y a de la suspicion. On n'est pas dans le monde d'après.
Antoine.
Du Covid.
Je me souviens comme directeur de cabinet dans une mairie après le Covid. On a eu beaucoup de mal à faire revenir les gens. Ils voulaient rester en télétravail. Nous avions même l'imprimeur de la ville qui avait demandé à ce que après le Covid, ils puissent télétravailler. Et c'était vu comme un droit quasiment sacré et refuser le télétravail, c'était une brimade. Et donc en réalité, clairement, le télétravail. C'est l'absence de travail à la maison. C'est les gens ne travaillent pas, notamment les fonctionnaires. Pardon.
Ah, des fois tu travailles mieux, hein. Quand t'es pas sur.
Moi, je travaille de chez moi la plupart du temps. Voilà. J'y arrive, je m'y mets. Il y a sûrement des gens qui le font, mais pardon, sur la masse des fonctionnaires, si en plus on bascule en télétravail, mais alors là, je suis affligé. C'est-à-dire que tu vas payer les gens à rester chez eux. Les seuls fonctionnaires qui devraient.
Mais pourquoi ça t'y arrive et les autres y arriveraient pas? Je comprends pas ton raisonnement.
Pardon, le travail de bureau de la fonction publique, ça devrait être supprimé. C'est-à-dire que on ne devrait avoir des fonctionnaires que dans le régalien, que dans ceux qui soignent, etc. Toute la paperasse administrative, là. Josiane, le formulaire B52, je te l'apporterai en début d'après-midi. Hein. Tout ça, c'est nul. Et si ça peut se faire en télétravail, c'est que ça sert à rien, tu vois. Donc, vraiment, tous ceux qui peuvent être en télétravail, c'est donc que leur travail est pas utile. Et donc, ça peut être un bon enseignement. Voilà.
Surtout que plus personne ne s'appelle Josiane aujourd'hui.
Dans l'administration, j'ai l'impression qu'il y a des Josiane.
Il y en a plus beaucoup. Est-ce que tu as des Josiane autour de toi, Fatima?
Non, c'est vrai que j'en connais pas. On a un appel.
Elles sont
auditeurs.
En télétravail.
Si vous appelez Josiane, on est preneurs. Et que vous avez aux alentours des 30-40 ans. Parce que voilà. Des Josiane de 70-80,
là, on n'est pas loin de la caricature.
Non, je m'appelle Josiane. Je tamponne des formulaires en télétravail.
C'est pas bien ça.
J'ai besoin de ça.
J'aimerais bien que les Josiane se révoltent. Appelez.
La révolte des Josiane.
La
manif des Josiane. C'était à l'époque des nuls. Tu te souviens, c'était quoi? C'était les Didier. Ils avaient fait des vannes avec
non,
quoi?
Non, c'est Régis.
C'était Régis. Régis, c'est ça.
Vous savez ce que disait Coluche des fonctionnaires? Moi, je pourrais pas être fonctionnaire parce que je parle en dormant.
parce que je parle en dormant.
Non, donc s'il dort, il va déranger les autres.
Voilà. Je suis Abel Bouilly.
C'est le mieux quand c'est
la meilleure, celle-là.
Non, mais quand Coluche le dit, c'est drôle.
Non, mais dès que c'est un peu fin, Fatima a plus de mal à comprendre.
Attends, enfin, tu parlais de tout.
Moi, je suis fatigué de l'oxymore psychologique dans laquelle nous nous trouvons. Je veux rebondir. Dans lequel, pardon, merci pour la correction, je vais rebondir sur l'introduction.
Pas sur Fatima.
Oui, non.
J'étais en train de comprendre la blague d'Olivier, tu sais, je peux pas faire de choses en même temps.
C'était pour voir si elle allait réagir. En fait, d'un côté, on dit qu'il y a trop d'état nounou, que les Français sont biberonnés matin, midi et soir. Et de l'autre côté, l'État, justement, a intérêt, justement, à nous dire, le matin, quand tu te lèves, habille-toi, quand tu as soif, bois, maintenant, va en télétravail. Cette incitation à aller en télétravail pour la bureaucratie, surtout de la fonction publique, ça va continuer de casser l'esprit du travail en France. Faut vraiment le réaliser. Parce que, comme tu l'as dit, quand on rentre dans un cycle de télétravail, après, quand ça finit, l'élan est fracassé, on n'a pas envie de revenir. Et on sait très bien comment ça se passe. Et pareil, je fais comme toi, je sépare ceux qui sont actifs sur le terrain des bureaucrates. Ceux qui ne travaillent pas beaucoup, qui commencent à 11h, qui finissent à 14h, parce que c'est ça la réalité. On va casser la dimension du travail, alors qu'au contraire, l'État devrait se focaliser sur la question des taxes sur le carburant et encourager le peuple à tenir bon malgré la crise et à rester productif. Et c'est pas le message qui est donné et c'est pas bon.
C'est un mauvais message.
Mais évidemment, c'est pas bon. Et les jeunes qui regardent ça, parce qu'à force de parler du télétravail tout le temps depuis le Covid, mais les jeunes, ils se disent c'est génial, mais moi, ma carrière professionnelle, ça va être quoi?
Je vais rester à la maison.
Voilà, exactement.
On a Christian qui va en parler avec nous. Il est dans l'Essonne. Il est agent de propreté. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous répondez à cette initiative du gouvernement? Alors, que répondez-vous? Dites-moi.
Bon, je constate que c'est encore une initiative qui favorise les plus aisés au détriment des plus précaires, quoi. Parce que moi, en tant qu'agent de propreté, je peux pas diriger matin sa papier de chez moi.
Mais c'est comme pendant le Covid.
Exactement.
Vous voyez.
Exactement.
Et vous allez devoir prendre votre voiture pour aller au travail.
Oui. Alors que ceux qui sont en télétravail, c'est les gens qui travaillent dans les bureaux.
Voilà.
Donc, pour la plupart, sont des cadres. Bon, il y a quelques agents qui travaillent dans les bureaux, mais la plupart sont des cadres.
Les fonctionnaires sont des cadres dans les bureaux, oui.
Bon, ils sont pas tous cadres dans les bureaux.
Allez-y, Christian,
pas catégorisé.
Et donc, c'est eux qu'on va aider à faire des économies d'essence, tout ça. C'est eux qu'on va aider à se remplir les poches. Pendant que nous, on va continuer tout ça. Et puis, moi, je dénonce encore une démarche pour prendre aux pauvres pour donner aux riches, quoi.
Mais c'est vrai, vous avez raison. J'avais pas vu ça, mais c'est en fait le cadre qui va pouvoir rester à la maison va donc faire des économies. Et vous, en revanche, qui êtes moins bien payé que celui qui est dans un bureau, vous allez perdre de l'argent. C'est vrai que c'est complètement injuste cette mesure le cornu qui nous est présentée comme un truc de bon sens, mais en fait c'est profondément injuste.
Mais le cornu, moi je me demande où est-ce qu'il, dans quelle planète il vit pour sortir des
il y en a qu'un, c'est le cornu.
J'en arrive à me demander si c'est pas un mutant.
Christian, on va écouter Laetitia qui est technicien assurance maladie qui est du côté de Lyon. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Vous avez entendu, il a pointé quelque chose de juste, Christian. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette mesure télétravail pour économiser de l'essence, alors?
C'est très bien. Moi, je télétravaille 3 jours par semaine et je peux vous dire que mon métier est très utile et je travaille énormément en télétravail.
Mais vous n'êtes pas fonctionnaire? Si.
Non, mais je suis utile à la société.
Oui, bien sûr, non, mais c'est pas ce qu'on disait.
De dire que le télétravail, on travaille pas en télétravail, je trouve que c'est n'importe quoi.
Oui, mais là, quand vous êtes en télétravail, vous avez l'impression de travailler. Vous n'avez pas aimé la petite sortie d'Abel, là.
Parce qu'on travaille énormément en télétravail.
Quel odieux personnage.
On n'est pas parasité par des collègues qui nous parlent
c'est
et
ça,
tout.
Nous faisons travailler mieux, même.
Grave.
Vous n'avez pas les conversations interminables qui ne servent à rien, la machine à café.
Non, mais surtout que maintenant, les open space et toutes les choses comme ça qui font que tu ne peux pas être concentré.
Mais Laetitia, du coup, vous faites, avec vos 3 jours de télétravail par semaine, vous faites des économies de carburant.
Grave. Heureusement d'ailleurs, parce que autrement, franchement.
Vous êtes loin de votre lieu de travail ou pas?
20 km à peu près.
Oui, donc c'est 20 km aller, 20 km retour?
Ouais. Donc ça me fait économiser 120 km par semaine, quoi.
Ouais, oui.
Ah oui, et là la note aurait été salée.
Alors pour repréciser mon propos, Laetitia, moi je parlais
sans les rames.
Non, je parlais des fonctionnaires bureaucrates.
Voilà, ah c'était oui, ça mon bah, ah bien sûr.
Et j'ai bien précisé mais évidemment qu'il y en a qui bossent, mais vous pouvez pas nier qu'il y en a qui ne bossent pas, qui ont des horaires de travail très aménageables, où on peut commencer à 11h, finir très tôt dans la journée. Vous savez très bien qu'il y a des brebis galeuses partout et que l'esprit du télétravail, même le message qui est donné à notre jeune, allez-y, c'est pas l'esprit de la productivité.
Il a envie de bosser, il bosse pas, même quand il n'est pas en télétravail. Même sur son lieu de travail, il peut glander.
Oui, le tir au flanc.
C'est pas spécifique au télétravail.
Où qu'il soit, il y cherchera toujours à pas bosser.
Voilà,
quoi.
Tout à fait. Donc, non, je suis pas d'accord.
Et vous en avez autour de vous des tirs au flanc, Laetitia?
Je sais pas, et puis franchement, je
t'en voyais plus du coup, vous en fichez. Vous êtes bien voilà. À bosser chez vous, à être efficace de chez vous, ma chère Laetitia.
Tout à fait, et très heureuse de retrouver mes collègues les deux jours où je vais sur site.
Bah, voilà. Faudra bien en parler sûr. Aux collègues, est-ce qu'ils sont heureux de vous retrouver? Ça c'est peut-être autre chose.
Ah, je sais pas, je vais t'en demander.
On vous embrasse Laetitia, merci. Hey, attendez Laetitia, une dernière chose, vous avez des Josiane autour de vous ou pas?
Il en reste quelques-unes, mais elles vont
pas. Voilà. Non, mais c'est terrible. Il en reste quelques-unes. On dirait qu'on parle d'une espèce protégée qui
nous
parle.
Mais ça reviendra, les Josiane, parce que tous les prénoms reviennent avant de
Josiane. Il nous faut une Josiane de 35 ans avant la fin de l'émission. Au 32-16. Toute notre considération et un dîner avec Antoine
Diaz. 35 ans, elle peut s'appeler Josiane.
Alors, est-ce que c'est oui ou non une bonne idée, le télétravail pour les fonctionnaires? On va regarder. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. On va voir non, 66%. Voilà. Allez, dans un instant, les gars du canon français avec nous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.